Question d'islam par Ghalib Bensheikh. Aujourd'hui, nous parlons bien entendu d'islam, encore une fois, et c'est le cahier des charges de l'émission elle-même, avec Tristan Vigliano.
Bonjour.
Bonjour et merci de nous faire l'amitié de venir. Vous êtes venu nous voir depuis Lyon et vous avez fait paraître un ouvrage aux presses universitaires de Lyon intitulé « L'islam et ma culture ». Et il nous servira comme base de discussion ce matin. Alors l'originalité du titre, c'est que vous avez mis le S entre parenthèses du verbe être. C'est à la fois le verbe être, un verbe, certain auxiliaire, mais aussi un verbe d'état. Mais il y a aussi la copule de ET, de la conjonction de coordination. Donc déjà le titre en soi est un programme, nous en parlerons. Et comme sous-titre, vous parlez de leçons d'histoire littéraire pour les jours de tourmente. Et c'est vrai que depuis l'Annus Horribilis 2015 et les mois de plomb que nous subissons, ce sont des jours de tourmente. Tristan Vigliano, pourquoi êtes-vous amené à composer cet ouvrage et l'intérêt qu'il suscite, et je le dis sincèrement, c'est que vous ne remontez pas la crise actuelle uniquement à quelques lustres ou à quelques décennies, mais vous allez aux représentations réciproques, mais davantage comment l'islam était perçu, notamment à la Renaissance, parfois même au Moyen-Âge. Certains veulent qualifier le Moyen-Âge de latin ou pas, mais je m'adresse aux latinistes que vous êtes maître de conférence à l'université Lyon Lumière 2, vous êtes un humaniste, ça je le dis, et vous travaillez effectivement comme chercheur, non pas sur l'islam, parce que vous dites que vous n'êtes pas un spécialiste, et le spécialiste est celui qui sait presque tout sur presque rien, par définition, mais vous travaillez sur les représentations de l'islam. Comment tout ça est venu, cher Tristan Vigliano, dans votre esprit, puis ça vous a amené à composer cet ouvrage?
Je dirais que ça m'est venu d'une curiosité. En fait, comme vous le disiez, je travaillais sur l'humanisme de la Renaissance, Rabelais, les traités de mauvaise manière, des choses qui n'avaient pas grand-chose à voir avec l'islam. Puis, quand j'ai pris mon poste à Lyon, on m'a demandé de travailler sur le fait religieux. Et je me suis intéressé à quelque chose que je ne connaissais absolument pas. Et d'ailleurs, d'une certaine façon, le point de vue qui est le mien ici, c'est celui du candide, du néophyte qui a découvert progressivement à quel point il y avait une sorte de grande échancrure à l'intérieur de sa culture. Et voilà comment, pendant 5 ans, ça fait presque 6 ans maintenant, je me suis mis à travailler sur, vous l'avez dit, les représentations de l'islam, c'est-à-dire, alors vraiment pas l'islam, mais je vous remercie de bien avoir précisé que j'étais pas spécialiste de l'islam et que je me prétendais nullement islamologue, mais la manière dont on perçoit dans l'Occident, très majoritairement chrétien, dont on a perçu l'islam pendant des siècles, alors à la Renaissance d'abord, au XVIe siècle, et puis progressivement j'ai élargi mes centres d'intérêt au Moyen-Âge, et aussi je suis allé en direction des Lumières, voilà, j'ai un petit peu grignoté, mais simplement par curiosité, sur d'autres siècles que le mien. Et puis un jour, il a fallu donner cours, ce jour c'était le lundi 15 novembre 2015, et c'était au retour d'un week-end, tragique, voilà, pour nous tous et notamment évidemment pour les Parisiens qui ont été touchés. Et ce jour-là, il fallait donner 2 cours, un cours d'histoire littéraire. Il fallait parler de Rabelais comme si de rien n'était. Est-ce que vraiment je pouvais faire ça? Et puis il fallait donner un séminaire qui s'intitulait « Le nom de Mahomet et sa doctrine ».
Qui est l'objet de votre premier chapitre de l'ouvrage.
Il m'a semblé qu'on ne pouvait pas faire comme si rien ne s'était passé. Et c'est là que, par nécessité, les travaux qui sont les miens depuis quelques années, j'ai essayé de les connecter avec ce qui se passait non pas pour faire fond sur la tragédie qui était la nôtre à ce moment-là, mais bien au contraire pour essayer de m'extraire de cette tragédie et voir comment je pouvais essayer de penser ce qui s'était passé.
Alors vous dites que vous n'êtes pas islamologue, mais étymologiquement l'islamologue c'est celui qui tient un discours. Il vaut mieux qu'il soit rationnel sur le fait islamique. Et ça, je crois que vous le faites bien. On peut discourir à côté de quelque chose et parfois utilement. Et ça, je le pense, vous le faites à juste raison. Le premier chapitre de votre ouvrage, encore une fois intitulé « L'islam et ma culture », qui se comprend comme étant ma propre culture, à supposer que les cultures sont sous-tendues par une ou des religions. Et ça peut être aussi l'islam à côté ou avec ou en dualité avec ma culture. Et vous dites qu'un de vos étudiants, une fois que vous avez dit Mahomet dans votre cours, vous a interpellé pourquoi vous ne lui donnez pas son nom arabe, Mohammed, et pourquoi Mahomet. Et là, tranquillement, sereinement, vous lui expliquez que... Vous lui expliquez quoi ?
Alors, j'aimerais que ça soit tranquille et serein. Et la vérité est que j'ai longtemps résisté à cette question. C'est-à-dire que il n'y a pas eu un seul étudiant. J'ai eu plusieurs étudiants, plusieurs années successives qui m'ont posé cette question. Pourquoi est-ce que vous dites Mahomet ? Et très souvent, j'ai répondu parce que c'est l'usage dans les livres que je lis. Voilà. Et puis, je me sens plus à l'aise avec cette forme. Il est important de dire à nos auditeurs que je ne suis pas arabophone. Donc voilà, ça explique le fait que voilà, il pouvait y avoir une réticence à employer une forme que je connaissais pas forcément. Voilà. Bon.
Pardon, Tristan oui. Vigliano, ils ne disent pas aux Turcs, les mêmes musulmans. Pourquoi vous dites Mehmet et non pas Mohammed? Et la preuve, c'est que Mehmet II, le conquérant, comme on l'appelle là-bas, en 1453, dès le 29 mai, est connu dans les livres d'histoire comme étant Mehmet II. Et là, c'est récent. Et si, avant de vous laisser développer, je pense que si l'usage et l'histoire ont fait en sorte qu'on a consacré un nom, ben on l'accepte. On dit bien Marseille en français, on ne dit pas Marsilia.
Oui, Pékin et pas Beijing, etc. Oui, c'est vrai. Donc ça, c'est aussi un des arguments que j'invoquais. Et d'un autre côté, c'est une sorte de béaba de l'anthropologie de considérer que quand on veut parler avec quelqu'un, on accepte le nom qu'il se donne, le vocabulaire qui est le sien. Bon. Et donc, à force d'entendre cette objection, c'était une objection, d'ailleurs très amicalement formulée, mais une objection quand même, je me suis posé cette question. Pourquoi d'abord est-ce que tu dis Mahomet, et est-ce que, comme l'affirmaient mes étudiants, est-ce que c'est une forme péjorative ? Voilà. Puisque un certain nombre de mes étudiants me disaient que c'était une forme péjorative. Alors vous avez raison de dire que l'objection est apparue assez est revenue assez récemment, pour le dire vite, d'après des recherches rapides à la fin des années 1970, et on pourrait se demander pourquoi. Bon. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai employé les outils qui sont les miens. Je suis allé voir les textes anciens, puisqu'après tout c'est mon métier, et voir comment le prophète de l'islam était appelé dans ces textes. Et dans ces textes, il est appelé la plupart du temps Mahom, Mahomet, Mahoumet, qui sont des formes phonétiquement équivalentes, ou encore Mahoumet, Mahoumet, quand il s'agit de latin.
Et Mahound quand il s'agit de l'anglais.
Alors, en anglais, Mahound, et d'ailleurs, je me demande si un des problèmes qui se pose avec la forme Mahomet n'est pas une sorte de transposition de ce qui s'est passé en anglais. C'est-à-dire qu'en anglais, la forme Mahound a disparu pour une raison assez simple, c'est qu'on entendait Hound, le chien. Bon. Et que évidemment, il y avait là quelque chose qui pouvait poser problème. Et je me suis demandé si l'objection qu'on adressait à la forme Mahomet n'était pas une transposition de la forme anglaise. Bref, je suis allé lire un certain nombre d'articles et surtout aller voir les textes anciens. Et je remonte jusqu'à la chanson de Roland. Je trouve les formes qui sont employées et j'essaye de comprendre si elles sont polémiques ou non. Alors pourquoi la chanson de Roland ? Parce que c'est la première occurrence, la première fois qu'on parle de Mahomet, c'est dans la chanson de Roland. Donc on est à la fin du XIe siècle. Et je me pose cette question, est-ce que cette forme est péjorative ? Puisqu'après tout, on peut supposer que si elle est péjorative, c'est vers les origines qu'elle le sera le plus. Et la surprise, je me suis rendu compte que les personnages de Sarrasin, Sarrasin c'est le nom qu'on donna aux musulmans au Moyen-Âge, encore à la Renaissance.
C'est pas le nom du grec, Sarkenoi.
Voilà, c'est pas ressenti comme en soi péjoratif, et je dirais même que c'est parfois le mot qu'on utilise pour musulman, puisqu'on trouve chez, par exemple, chez Jean de Ségovie, qui vit au 15e siècle, Sarrasin veut dire qui est soumis à Dieu. Vous voyez, donc c'est vraiment, il pense musulman, mais il dit Sarrasin. Bon. Et donc, dans la chanson de Roland, je me rends compte que les Sarrasins emploient la forme Mahomet ou ses équivalents. Et ils l'emploient évidemment dans un contexte qui n'est pas péjoratif, puisqu'ils disent qu'ils le révèrent, même qu'ils l'adorent, ce qui d'ailleurs est évidemment une vision complètement déformée de l'islam. Hein. Il n'y a aucun doute là-dessus. Dans la chanson de Roland, on a une vision déformée de l'islam, puisque Mahomet, Muhammad, est représenté comme une divinité adorée au même titre qu'Apollin ou Tervagan. Hein. Mais pour autant, malgré cette vision déformée de l'islam, ces personnages ne disent pas de mal de Mahomet, et ils emploient cette forme. Ce qui me laisse penser que, sinon dès ses origines, du moins dès le moment où elle apparaît à l'écrit, cette forme n'est pas en soi péjorative.
J'allais dire simplement que l'argument de ceux qui s'insurgent contre l'appellation Mahomet de nos jours, c'est que ça renvoie plutôt à l'expression arabe « Mahomida », c'est-à-dire celui qui n'a pas été loué ni glorifié, ce qui est un non-sens puisque la signification de Mohammed en arabe est le louer, le glorifier, le bénir, enfin, davantage le glorifier et le louer, et qui, dans les controverses entre théologiens chrétiens et théologiens musulmans, ça a donné lieu à quelques querelles, le mot querelle est peut-être un doux euphémisme à travers l'histoire, c'est que le paraclitos, le paraclet grec, renvoie cette notion de glorification et de louange, et donc on dit que les textes même renvoyaient à l'annonce de la venue de Mohammed. Bien entendu, le paraclet a été compris davantage comme étant l'Esprit Saint que celui qui sera glorifié ou loué par Dieu. Et donc, cette controverse récente sur le nom est due peut-être, de mon point de vue, à une certaine fragilité et à une certaine crispation.
Ah oui, il est certain qu'il y a une crispation qu'on pourrait qualifier d'identitaire hein, autour de cette forme, ça me semble tout à fait exact. Est-ce que pour autant, il faut considérer que, comme la forme Mahomet n'est pas polémique, on ne devrait pas utiliser la forme Muhammad ? Je crois pas. Et je crois que ma réponse primitive était fausse. Quand je parlais de tradition, quand j'invoquais une forme de tradition, voilà, c'est ce que j'ai lu, c'est comme ça qu'on dit. Bon. Je faisais une réponse qui était un petit peu rapide. Et là, c'est vraiment là que je voudrais faire l'éloge de l'histoire de ce retour au texte. C'est que, en m'interrogeant là-dessus, je me suis rendu compte que des auteurs anciens, des auteurs de la Renaissance, par exemple, ma chère Renaissance, que ces auteurs employaient des formes comme Muhammad. On trouve ça, par exemple, chez Guillaume Postel. Alors, oui, Guillaume Postel, c'est vraiment le père de l'orientalisme, peut-être européen, en tout cas français. Oui. Bon. Et c'est quelqu'un qui
avec
utilise...
les réticences qu'on peut avoir de nos jours.
Vis-à-vis de l'orientalisme.
Il y a l'orientalisme savant, mais qui commence à être remplacé par l'islamologie savante. Puis il y a certains orientalismes qui, pour d'aucuns parmi les chercheurs, étaient mis au service de l'œuvre coloniale.
Oui, bien entendu. Et bien justement... On est bien avant hein, l'époque coloniale, mais Guillaume Postel emploie la forme Muhammad, pour le dire vite, hein, il emploie cette forme dans des contextes où il dit beaucoup de mal de Muhammad, de Mahomet. Bon. Ça veut dire qu'il y a en fait une sorte de disjonction entre la forme employée d'un côté et le propos tenu de l'autre. Mais là encore, si ma première tendance est de dire Guillaume Postel, 16e siècle, vous rendez compte de la manière dont il parle du prophète de l'islam. Bon. Là, j'ai une démarche qui n'est pas du tout historique. Bon. Ce que je peux constater, c'est qu'il pose des jalons pour une adresse possible aux musulmans. Alors, son point de vue, c'est celui, vous l'avez dit, hein, d'un orientaliste chrétien, mais qui nous dit, et ça, il l'écrit hein, noir sur blanc, qui nous dit que notre connaissance, et je dis nous comme si je vivais au XVIe siècle, hein, que notre connaissance de l'islam est parasitée par notre ignorance de la langue arabe et de la langue turque, et qui donc il faut les connaître. Et quand il emploie la forme « Muhammad », il emploie en fait une forme qui lui permet de dire à son lecteur, essaye de t'acclimater à une autre manière de dire, parce que c'est comme ça qu'un dialogue aura lieu. Et donc, quand je répondais que la tradition était de dire Mahomet, bah oui, mais à partir de quand on fait remonter la tradition? Au XVIe siècle, ça commence à faire une sacrée tradition. Voilà, Postel dit Mohammed.
Et vous ajoutez aussi que dans vos recherches, dans vos investigations, vous avez même découvert qu'en contexte islamique, on disait Mahamoud.
Alors oui, c'est assez étonnant. Alors c'est pas moi qui l'ai découvert. Hein, j'ai découvert que des savants avaient parlé de ça, orientalistes pour le coup, et avaient montré en effet que au XVe siècle, au XVIe siècle, circulaient des formes comme Mahamad, Mahoumad. Alors bien avant, là dans la littérature grecque de controverse, on est plutôt au IXe siècle. Je parle de l'ère chrétienne évidemment. On parlait de Mukoumet. Voilà. Que toutes ces formes circulaient, et je parle bien de circulation, parce que quand on trouve la forme, par exemple, Mahoumad au Maroc au XVIe siècle, au début du XVIe siècle, est-ce que cette forme ne vient pas de l'Europe, par exemple, où la forme Mahomet, Mahometo, etc. aurait cours? On se représente volontiers une circulation qui irait dans un sens
et pas dans l'autre.
Pourquoi ça irait pas dans les deux sens?
Toujours dans vos investigations, cette fois-ci dans le cœur de votre, dans la cible de votre recherche, vous parlez du Coran tamisé, donc de Nicolas Le Cusin, Nicolas de Cuse. Et là, qu'est-ce qui y est mis? Qu'est-ce qui y est dit?
Alors, Nicolas de Cuse, alors je dis un mot si vous voulez, hein, du prie, Coran oui, passé oui. au tamis, du Coran tamisé, cribratio al Corani.
Ah oui, le latiniste que vous êtes, oui.
En latin. Alors, quelle idée bizarre. Alors, Nicolas de Cuse, on est au XVe siècle, Nicolas de Cuse s'intéresse à l'islam et il est persuadé, ils sont deux ou trois dans l'entourage du pape, qu'il faut absolument s'adresser aux musulmans. Ce qui est assez rare à l'époque, hein. Bon. Et ils essayent de créer une sorte de parti favorable à ce dialogue. Alors, quand je dis dialogue, il s'agit de convertir les musulmans. Ça, il doit être bien clair que notre dialogue œcuménique n'a pas cours dans ces époques. Bon. Et Nicolas de Cuse écrit pour ça, hein, donc un Coran passé au tamis. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit de considérer qu'on peut donner une interprétation pieuse du Coran. L'idée de Nicolas de Cuse repose sur une sorte d'histoire un peu fantasmée selon laquelle les Arabes étaient un peuple fruste auquel le prophète Mohammed, Mahomet, n'aurait pas pu donner tel quel les évangiles. Donc il leur a donné une version un peu light, si vous voulez, des évangiles.
Une sorte de propédeutique.
Une sorte de propédeutique, c'est exactement ça. Pour les mener progressivement vers le christianisme, qu'ils n'étaient pas capables de recevoir. Bon. Pour lui, donc, l'islam est un bienfait, et ça, c'est très original. Ce qui est original, c'est pas de dire que l'islam est un bienfait, parce que depuis des siècles, on dit que, grâce à l'islam, les chrétiens ont été punis de leurs vices. Oui. Ça, il y a rien de, parmi les chrétiens, il y a rien de très original.
Et que c'est un dessein que Dieu.
Oui, c'est sa providence.
Oui, c'est voilà, une providence.
Qui a agi. C'est la providence qui a agi. Bon. Non, lui, ce qu'il dit, c'est que l'islam est un bienfait pour les musulmans, parce qu'il leur a permis de passer d'un polythéisme originel à un monothéisme, et qu'il ne reste plus qu'une petite étape qu'il se propose d'accomplir d'une certaine façon pour les mener vers le christianisme. Bon. Et donc, son interprétation pieuse consiste à passer le Coran au tamis des évangiles. C'est-à-dire à sélectionner dans le Coran ce qui serait vrai et ce qui ne le serait pas, et ce qui est vrai, vous l'avez deviné, c'est ce qui se trouve dans les évangiles. Alors là, il y a quelque chose qui pourrait poser problème, mais Nicolas de Cuse est absolument certain que dans le Coran, les évangiles sont montrés comme un texte plus parfait encore que le Coran. Donc là, on a quelque chose qui m'intéresse parce qu'on est au terme extrême de ce qu'un penseur de la Renaissance peut concevoir comme avancer vers l'islam. Alors nous, ça nous paraît pas beaucoup, hein, évidemment, parce qu'on a un autre point de vue. Nous dirions que nous sommes plus avancés, ce qui est un terme que je récuse par ailleurs. Bon, mais voilà, on est au terme extrême de cette ouverture vers l'islam, vers l'altérité islamique. Et Nicolas de Cuse dit Mahomet.
Ah oui, ah oui. Et l'ouvrage est,
Et Nicolas de Cuse dit Mahomet. Ça veut dire, excusez-moi, monsieur Benchek, mais, et Nicolas de Cuse dit Mahomet, ça veut dire que il n'emploie pas la forme Muhammad. Là encore, vous avez une disjonction complète entre la forme employée, francisée ou latinisée si vous voulez d'un côté ou arabe de l'autre, entre cette forme employée et le propos qui est tenu. Postel dit Muhammad pour dire du mal de Muhammad et Nicolas de Cuse dit Mahomet pour montrer comment il a contribué, alors certes avec de mauvais desseins, hein, si on l'en croit, au dessein de Dieu. Oui.
Donc la déconnexion entre le dessein péjoratif ou dépréciatif de l'appellation est établie avec ça. Je voulais vous poser une question simplement, je la dirai après le fait d'annoncer que nous sommes sur France Culture dans l'émission « Questions d'Islam » avec Tristan Vigliano, maître de conférence à l'Université Lyon, Lumière 2. Cher Tristan Vigliano, vous êtes chercheur, vous passez votre temps à fréquenter les humanistes de la Renaissance et vous travaillez sur les représentations de l'islam, notamment dans cette période-là. Mais aujourd'hui, nous parlons de votre ouvrage « L'islam et ma culture ». À la radio, comme on ne voit pas le titre, c'est « L'islam et ma culture du verbe être ». Donc c'est la culture de celui qui parle, mais aussi « L'islam et ma culture », c'est à côté. Oui, je vous en prie.
Oui, je me permets juste d'intervenir, peut-être pour expliquer, puisque c'est une question que vous m'aviez posée, et puis comme je suis affreusement bavard, je n'y ai pas répondu.
Non, mais vous n'êtes pas bavard, vous conversez.
Pourquoi ce titre ? Bah justement parce que je voudrais m'adresser à la fois à des personnes qui, comme moi, veulent réfléchir au lien entre l'islam et leur culture, que ces personnes soient musulmanes ou non musulmanes, parce qu'elles ne diraient pas « l'islam est ma culture » pour les raisons que vous avez présentées, et aussi à des personnes, parce que je les ai eues comme étudiants, et des étudiants très intéressés, des étudiants passionnés, des étudiants voulant discuter, vous parlez de cette conversation elle vient de ces échanges, bon. Des personnes qui diraient néanmoins « l'islam est ma culture ». J'ai encore eu un courriel d'une de mes étudiantes qui a lu ce petit livre et qui m'a dit qu'elle se reconnaissait dans le titre « l'islam est ma culture » avec le verbe « être ». Voilà. Donc s'adresser à toutes ces personnes et essayer de s'adresser à deux publics à la fois. Et j'essaye d'ailleurs de réfléchir à la possibilité de s'adresser à deux publics à la fois et aux maladresses que ça peut engendrer.
Oui, avec une composante qui se trouve être de confession islamique au sein de la nation, puisque nous nous reconnaissons sous la République qu'une communauté nationale d'un destin commun. Tristan Vigliano, peut-être une dernière question sur Nicolas de Cuse.
Je sens qu'il vous intéresse, Nicolas.
Il m'intéresse, oui, il me passionne même. Mais je voulais
vous comprends.
Et un point de détail que je profite de votre présence pour vous poser la question. Son Coran tamisé est venu après la docte ignorance,
oui,
chronologiquement.
Oui, chronologiquement, il est écrit après la docte ignorance, dont d'ailleurs, il y a des points communs, évidemment. On est dans une pensée cohérente d'un penseur qui a son propre système, hein, notamment dans sa christologie qui est commune à la docte ignorance et au Coran tamisé.
Criblé ou tamisé, passé au crible.
Passé au crible, non. Oui, il y a des points communs, mais ça vient après. Hein. Le Coran tamisé est une œuvre tardive dans la vie de Nicolas de Cuse. En fait, il le dédie au pape Pie II. Vous voyez, ce pape qui est connu pour avoir envoyé une lettre au sultan Mehmed II. Vous parliez de Mehmed II tout à l'heure.
Oui.
Mehmed II a reçu, ou n'a pas reçu, plus probablement, une lettre du pape Pie II qui lui proposait de reconnaître son pouvoir sur tout l'Orient, et même sur l'Europe, bon. À une petite condition, mais rien du tout, hein, rien à ça, enfin, juste deux gouttes d'eau qui se baptisent. Bon. Donc Pie II est lui aussi passionné par ces questions, et c'est probablement dans cet univers un peu effervescent d'intérêt pour l'islam que se situe la rédaction du Coran tamisé. Et tout à l'heure, je vous ai dit que ce que recherchait Nicolas de Cuse, c'était une pieuse interprétation, pia interpretatio. Ben, dans pia interpretatio, vous entendez pius, c'est le nom de Pie II. Il y a peut-être un jeu de mots, un de ces jeux de mots qu'adorent mes chers humanistes.
Oui, je ne vois pas s'il y a un nécessaire lien ou pas. Il se trouve aussi que les auteurs arabes cherchaient toujours à avoir, par rime et par des jeux de mots, les différents titres de leurs ouvrages. Ma question revient, c'est que là, on est à quelque temps après la rencontre de saint François d'Assise et le sultan Malik al-Kamil à Damiette en 1219, où il y a eu un dialogue qui a donné lieu à d'autres ouvrages, dont un intitulé « Dieu et courtoisie », parce que la rencontre s'est faite dans un climat bienveillant et empreint d'une réelle courtoisie. Mais l'autre question, c'est encore plus en amont, on a la traduction, sur ordre de Pierre le Vénérable, l'abbé de Cluny, du Coran pour la première fois. Mais on n'est plus dans la même logique, puisque dans un cas, ça aurait été, ou c'était à une commande pour pourfondre ses thèses et dirimer ce qu'il dit, et là, c'est plus, il y a une pieuse interprétation.
Alors, je suis d'accord et pas d'accord.
Ah ben, c'est quand on n'est pas d'accord, c'est le lieu, c'est l'occasion d'apprendre. Voilà,
je vous en prie. Et c'est réciproque, hein, vraiment, oui. Je vous remercie, j'aspire à ce dialogue. Alors, pourquoi je suis d'accord et pas d'accord? En effet, on n'est pas dans le même contexte. Et en même temps, j'ai bien dit que Nicolas de Cuse avait pour but de convertir les musulmans. Alors maintenant, je vais présenter le but de cet abbé de Cluny, Pierre le Vénérable, qui lui écrit en 1143. On est quand même trois siècles auparavant. Hein. Bon. Pierre le Vénérable n'écrit pas une traduction du Coran, il supervise une traduction du Coran qu'il fait réaliser par un certain Robert de Ketton. Bon, peu importe. Pourquoi est-ce que Pierre le Vénérable commande cette traduction? Parce qu'il allait en Espagne pour réformer son ordre, l'ordre clunisien. Et la reconquête de l'Espagne par les chrétiens est en bonne marche, mais il se rend compte qu'elle n'aboutira pas si on passe simplement par les armes. Et là, il y a un débat intellectuel à cette époque, notamment entre Pierre le Vénérable et Saint Bernard, qui lui est beaucoup plus favorable à la croisade, en tout cas qui le dit beaucoup plus explicitement. Non. Pierre le Vénérable croit que on ne convertira pas par les armes, qu'il faut convertir les cœurs et que pour ça, il faut entendre ce que disent les personnes avec qui on parle. Donc oui, il y a quand même une forme de, là encore, de tradition qui mène de Pierre le Vénérable à Nicolas de Cuse. Et d'ailleurs, Nicolas de Cuse, quand il cite le Coran, cite en fait la traduction de Pierre le Vénérable. Cette traduction, on en a 34 manuscrits. Et alors, on peut dire que c'est pas beaucoup. Moi, ça me semble énorme, parce que à l'époque, dans l'Europe chrétienne, vous aviez pas comme ça le Coran dans votre bibliothèque.
Oui, et on était bien avant la machine de Gutenberg.
Oui, donc c'est un texte qui est très diffusé, qui pour cette raison, ce Coran de Pierre le Vénérable, rédigé en 1143, ce Coran traduit en latin, cette première traduction du Coran en Europe, aura une postérité très importante. Juste, vous parlez, on est bien avant l'invention de Gutenberg, il y a deux dates qui sont faciles à retenir. 1143, traduction du Coran en latin par Pierre le Vénérable. 1543, impression, première fois que le Coran est imprimé en Europe par un humaniste luthérien de Zurich qui s'appelle Théodore Bibliander, ça veut dire l'homme livre hein, en grec. Bon. Et Bibliander imprime quel Coran? Le Coran de Pierre le Vénérable. C'est-à-dire que ce texte qui a déjà beaucoup circulé, on en a des attestations par la tradition manuscrite, bah, il en reprend pour deux siècles hein, à circuler, et c'est pendant, grosso modo jusqu'au, non, deux siècles, j'exagère un peu, mais jusqu'au milieu du XVIIe siècle, on lit le Coran, et donc on connaît l'islam à travers sa traduction latine, une traduction latine qui date du XIIe siècle. Et quand Montesquieu parle de l'islam dans ses lettres persanes, par exemple. Quand Montesquieu parle de l'islam dans ses lettres persanes, il croit s'informer à une source qui date du XVIe siècle, ce qui déjà peut-être pose un problème, enfin, en tout cas pose question. Elle a déjà deux siècles, la source en question. Mais en fait, sa source, elle remonte à Pierre le Vénérable. Elle remonte au XIIe siècle.
Et là, Tristan Vigliano, vous avez développé la partie où vous n'êtes pas d'accord avec moi, ou l'autre, ou les deux en même temps?
Alors, j'étais pas d'accord dans le sens, j'étais pas dans le corps, dans le, d'une certaine façon, dans l'opposition qu'on pouvait faire entre ce d'accord. qui aurait été une forme de bienveillance chez Nicolas de Cuse et de malveillance chez Pierre le Vénérable. C'est pas le cas. Et je dirais que tous les auteurs dont je parle là, Nicolas de Cuse, Pie II, et bien avant Pierre le Vénérable, bon, déjà, je ne sais pas s'il faut parler de bienveillance, malveillance. Je ne crois pas qu'il résonne dans ces termes.
On n'est pas dans les mêmes standards. Et puis, il ne faut pas commettre de parachronisme qui n'est pas l'anachronisme. Mmh. C'est-à-dire, on projette sur une période de l'histoire.
Pas de projection, c'est très, très important. Pas de projection, oui.
Et c'est, j'ai été dans la simplification.
Non.
Et c'est vrai qu'à partir d'aujourd'hui, je ferai attention. J'ai toujours compris que dans un cas, c'était davantage pour essayer de comprendre parce qu'il faut dirimer les thèses qui s'y trouvent. Et dans l'autre, même si in fine le but c'est de convertir, d'avoir cette conversion vers Dieu et via la médiation du Christ et de l'Évangile, mais que les choses étaient un peu plus bienveillantes. Mais les choses sont beaucoup plus complexes et il faut se garder de compartimenter comme ça. Au fur et à mesure que le temps s'écoule, Tristan Vigliano, passons au deuxième chapitre de votre ouvrage que vous consacrez à un mot poison. Les linguistes parlent des mots hochets, des mots valises, des mots totems. Et là, le mot poison, c'était celui qui fait polémique à chaque fois qu'on le prononce. Ah. Et c'est le mot islamophobie. L'étymologie du mot renvoie à une peur irraisonnée, pathologique. Auquel cas, il faut en guérir, donc il faut compatir avec l'état, à l'état de celui qui en est affecté. Et d'autres le comprennent comme étant un acte délibéré anti-musulman, anti-islamique.
Comment ce que vous appelez mis-islamique, ce que vous avez l'habitude d'appeler mis-islamique.
Je ne veux pas saisir ce micro.
Mais moi, je l'ai saisi.
Pour parler de ce que j'essaie.
J'ai saisi l'occasion.
Mais c'est vrai que la mis-islamie, du grec mesos, haine, détestation, aversion et islamique, c'est quand la détestation et la haine est assumée comme telle et revendiquée, un peu comme le misanthrope ou le misogyne. En revanche, l'islamophobe de nos jours, s'il a peur de l'islam, il y a de quoi avoir une vision recevable de cette peur.
Alors je souscris entièrement à ce que vous venez de dire. Je dirais que tout l'effort qui est le mien dans ce petit livre, c'est par l'histoire d'aider mon lecteur et de m'aider moi-même, c'est un essai au sens propre du terme, de m'aider moi-même à surmonter des peurs. Et cet essai de pédagogie auquel, que vous appelez de vos voeux, c'est vraiment ce que j'ai tenté en historien de la littérature plus exactement et des représentations, ce que j'ai tenté dans ce petit livre.
Alors, et votre étudiante, alors, qui s'est retrouvée totalement dans votre essai, pour ce deuxième chapitre, c'est pour ça que je ne dis pas second, il y en a d'autres, elle s'y est retrouvée totalement.
Alors je n'ai pas dit qu'elle s'était retrouvée totalement, ou si j'ai employé ce terme, c'est abusif. Ce dans quoi elle s'est...
Vous ne l'avez pas utilisé à ma connaissance.
Ce dans quoi elle s'est retrouvée, c'est dans le titre, dans la forme « L'islam est ma culture ». D'accord. Je pense, on a simplement échangé par courriel pour l'instant. On va se voir bientôt. Elle doit d'ailleurs soutenir une thèse. C'est l'étudiante d'un collègue en réalité, une thèse sur la première traduction française du Coran par André Durier. Il est possible que ce que je dis de l'islamophobie l'ait arrêté. Alors, si vous voulez, je vais expliquer rapidement quel est mon propos. Alors, il est possible que ça l'ait arrêté, mais je suis certain en revanche parce qu'elle me l'a dit, qu'elle a lu jusqu'au bout et qu'elle a envie qu'on en discute. Et c'est ça qui compte, hein. Bon, donc ce que je souscris entièrement à ce que vous avez dit sur la racine, sur la crainte. Et moi, mon travail, c'est de m'interroger sur les origines de cette crainte. À partir de quand cette crainte naît? Et ce que j'essaye de montrer dans le deuxième chapitre de ce petit livre, c'est que cette crainte est bien antérieure au moment même où apparaît le mot islam. C'est-à-dire que ce mot islam, il est très peu employé. Si vous regardez, si vous consultez le trésor de la langue française, on vous dit qu'il apparaît en 1697, et une de mes grandes fiertés est de montrer dans ce petit livre qu'en fait, il apparaît en 1575. Mais c'est une rareté. Personne ne dit islam au XVIe siècle. Bon. Mais la peur de l'islam, elle est bien antérieure à l'existence du mot. C'est-à-dire que la phobie, d'une certaine façon, elle préexiste à une connaissance suffisante de cette religion qui ferait qu'on l'appellerait l'islam. Je vous en donne un exemple, si vous voulez. Un des auteurs sur lesquels je travaille est un évêque, l'évêque de Chalon-sur-Saône. Donc on est toujours dans la même période que Nicolas de Cuse, Pie II. D'ailleurs, tous ces gens-là se sont retrouvés et ont échangé au moment du concile de Bâle. Il y avait aussi Jean de Ségovie dont je vous ai parlé. Bon. Jean Germain, puisque c'est son nom, Jean Germain écrit un débat du chrétien et du sarrasin. Alors c'est assez drôle, si j'ose dire, comme structure, puisque vous avez 10 feuilles qui sont consacrées à présenter le point de vue du sarrasin qui écrit aux chrétiens, et 270 feuilles qui sont consacrés au point de vue du chrétien.
Et le sarrasin qui commence le premier. Et,
voilà. Et le chrétien qui finit, ce qui est une manière de montrer qu'à lui revient la conclusion. Donc on comprend vite de quoi il s'agit. L'évêque de Chalon-sur-Saône, Jean Germain, a pour objectif de promouvoir la croisade, qui est à l'époque le grand objectif diplomatique du duc de Bourgogne, de son duc. Bon. Ça, c'est assez simple comme lecture. Moi, ce qui m'a intrigué, c'est que dans ce débat du chrétien et du sarrasin, il y a des choses qui ne marchent pas. Alors, je vous donne quelques exemples. Après la fameuse grande réponse fleuve du chrétien, le sarrasin a encore son mot à dire, et il réplique pendant 2 pages, et le chrétien, parce qu'il faut vraiment décidément qu'il conclue, le chrétien reprend la parole une dernière fois. Bon. Et le sarrasin, comme le chrétien d'ailleurs, ne n'apporte pas d'arguments supplémentaires. Donc il y a une sorte de redite, à quoi ça sert? C'est une question qu'on se pose. Bon. Deuxième problème, après je vais essayer d'expliquer à mon avis la cause de ces problèmes. Deuxième problème, le chrétien comme le sarrasin, au milieu du livre, tout d'un coup, nous parle d'un certain Jean Germain, l'auteur du présent livre. Donc vous vous représentez un peu le bourgeois gentilhomme qui tout d'un coup s'arrête et vous parle de Molière. Bon. Il y a là quelque chose qui est étrange et qui rompt la fiction. Dernière chose, tous les deux s'en remettent au jugement du commandeur des croyants, qui est leur roi. Bon. Et on nous précise que ce commandeur des croyants a déjà rendu un jugement favorable aux chrétiens. Bon, c'est assez étonnant, mais voilà. Il a rendu un jugement favorable aux chrétiens au XIIe siècle. Or, la scène, le livre, la narration, est censée se passer au XVe siècle. Donc là, vous voyez, il y a des problèmes, et je peux me dire qu'il a écrit trop vite son traité, qui fait quand même 280 pages, donc c'est surprenant, mais... J'essaie de comprendre ce qui se passe. Et ce qui se passe, à mon avis, est la chose suivante. C'est que faire répéter au sarrasin le même argument, c'est montrer qu'il est entêté. Et s'il est entêté, c'est pas la peine de lui parler. Prononcer le nom de l'auteur par les personnages, c'est montrer que ce n'est qu'une fiction. Autrement dit, qu'on a affaire à un simulacre de dialogue. Vous n'allez quand même pas penser que quelqu'un a sérieusement parlé à des sarrasins. Bon. Et enfin, représenter le commandeur des croyants, le même personnage, le même roi, rendant un jugement à 3 siècles d'écart, ce qui est quand même beaucoup hein, pour le même homme, il faut le dire, c'est dire que tous ces rois, de toute façon, sont les mêmes. Ils sont tous les mêmes. Hein. C'est une phrase qu'on entend trop souvent. C'est refuser une histoire aux musulmans. Et pourquoi est-ce que Jean Germain fait ça? Et c'est là que je réponds à votre question. Pourquoi il fait ça? À mon avis, parce que le but de son texte n'est pas simplement de montrer que les chrétiens ont raison sur les musulmans, c'est de montrer que les chrétiens ne doivent pas parler avec les musulmans. Et que si dialogue il y avait, ce dialogue ne serait qu'un simulacre. Alors la question qu'on se pose, c'est, mais pourquoi est-ce qu'il est nécessaire de montrer qu'il ne faut pas parler avec des musulmans? Et là, c'est une lettre adressée par Jean Germain à Jean de Ségovie, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui nous l'explique. Jean de Ségovie, lui, il veut vraiment s'adresser aux musulmans. Alors pour les convertir, mais il veut engager un dialogue. Et Jean Germain lui dit, attention, ne fais pas ça. Si tu fais ça, pour un musulman que tu convertiras au christianisme, tu auras 100 chrétiens qui se convertiront à l'islam. Autrement dit, ce dont il a peur, et vous voyez que c'est une peur bien antérieure à l'apparition du mot islam, hein, j'emploie islam par facilité, mais c'est la religion, la loi des sarrasins, oui, comme on dit à l'époque. Autrement dit, la peur qui est là, c'est une peur de l'islam. Et ce qui m'intéresse dans cette islamophobie, si vous voulez, quoiqu'elles ne doivent pas porter ce nom puisque le mot islam n'est pas connu, ce qui m'intéresse, c'est qu'en fait, c'est une peur de soi. Ce dont a peur Jean Germain, c'est pas tellement des arguments des musulmans eux-mêmes, c'est pas vraiment ça qui lui fait peur. Ce qui lui fait peur, c'est la foi, ou plus exactement, le manque de foi de ses propres coreligionnaires, de ses chrétiens. Et voilà, ce qui m'intéresse, moi, dans la lecture de ces textes, c'est ce qu'ils peuvent nous apprendre pour notre époque. Et je me demande si, là en l'occurrence, le texte de Jean Germain ne me permet pas de découvrir dans l'islamophobie, prise au sens propre, hein, comme crainte de l'islam actuel, peut-être la crainte d'un manque, la crainte chez, alors là je parle des non-musulmans, hein, là j'adopte le point de vue du non-musulman, la crainte d'un manque de foi, une foi qui serait par exemple la foi dans le commun, dans des valeurs communes, et se retrouver face à une foi beaucoup plus forte et qui éventuellement, risquerait de faire trébucher des éléments, de compromettre encore plus cette foi dans le commun qui est différente de la foi musulmane. Voilà, il y a là des choses qui permettent, dans ces vieilleries du Moyen-Âge, de la Renaissance, qui peut-être nous permettent de penser nos propres craintes. Et penser nos propres craintes, c'est déjà les mettre à distance.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam avec Tristan Vigliano, maître de conférence à l'université Lyon Lumière 2, chercheur, humaniste lui-même, intéressé grandement par l'humanisme de la Renaissance. Il travaille beaucoup sur les représentations de l'islam depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Tristan Vigliano, je vous ai écouté avec beaucoup d'intérêt développer toute cette séquence sur presque les origines de l'islamophobie dans son sens étymologique et dans ce débat controverse, fictif ou pas. Je ne voulais pas avoir l'outrecuidance de vous dire est-ce que ce sont vos propres conclusions à vous ou est-ce que c'est partagé, mais en tout cas, en vous écoutant, ça m'a renvoyé, mutatis mutandis bien entendu, aussi à la controverse entre Manuel II, paléologue, et le lettré, puisqu'on ne donne pas son nom, persan. Et ça a donné lieu, en tout cas en ayant pris quelques extraits, à l'appui du discours de Ratisbonne le 12 septembre 2006, par l'actuel évêque de Rome émérite, maintenant, et qui fut le pape Benoît XVI. C'est tout ça, c'est toutes ces choses qui, petit à petit, avec la crainte du Turc, bien entendu, avec le flux et le reflux, qui en laissaient trace dans ces craintes, ou c'est tout simplement, depuis quelque temps, la terreur qui s'abat au nom de la tradition religieuse islamique et au cri de Dieu est grand, qui en nourrit cette islamophobie, ou les deux, ou comment analysez-vous la chose?
Je dirais que des craintes très anciennes sont réactivées. Sont réactivées par un contexte malheureusement favorable à la réactivation de ces craintes. D'où la nécessité de cette pédagogie. Et là où, puisque vous faites allusion au fait qu'il s'agit aussi d'un essai, hein, je prends position, là où par exemple je me permets de marquer une forme de divergence avec des gens comme Alain Finkielkraut ou Rémi Bragg, c'est qu'il me semble que parler de cette crainte de l'islam deux ou trois jours, comme ils l'ont fait après, par exemple, les attentats de Charlie Hebdo, me semble de nature à attiser une crainte qui, à ce moment précis, est une panique. Et, d'une certaine façon, le grief hein, que je formulerais serait le suivant, si je puis me permettre, hein, serait le suivant, ça serait que ces intellectuels, à ce moment-là, ne sont pas attentifs à l'histoire. Ce n'est pas le moment de dire ces choses-là. Je vais vous dire les choses autrement, et on va se parler franchement devant nos éditeurs. Cette émission est enregistrée. Voilà. Cette émission est enregistrée. Elle est enregistrée au cœur de l'été. Nous ne savons pas, en tout cas moi je ne sais pas, quand elle sera diffusée. Je souhaiterais qu'elle ne soit pas diffusée quelques jours après un drame tel que celui que nous avons connu. Parce que ça ne serait pas le moment de faire ce travail-là. Prendre de la distance avec son objet, c'est aussi être sensible au contexte dans lequel on parle. Dans le dernier chapitre de ce petit livre, je réfléchis et je souscris très largement aux analyses d'un de mes collègues philosophes qui s'appelle Pierre Zawi, et qui publie le 18 novembre, je crois, 2015, donc quelques jours après les attentats de Paris, une tribune dans laquelle il recommande qu'on ne parle pas des terroristes comme des barbares. Et le dernier chapitre de mon petit livre défend ce paradoxe, à savoir que les terroristes ne sont pas des barbares. On pourra en dire un mot si vous voulez. Bon. Bah, peut-être est-ce que je peux tenir moi ce discours maintenant, à 2 ans de l'événement. Discours que je n'aurais pas pu tenir et que dans mes cours je ne tenais pas exactement de cette façon à 2 ou 3 jours de ce qui s'était passé. Il faut, je crois, être sensible au contexte dans lequel on dit des choses, dans lequel ces choses peuvent être reçues. Il me semble que nous autres, soit chercheurs comme c'est mon cas, ou intellectuels et chercheurs comme c'est le vôtre, devons être sensibles justement à l'historicité de nos propres discours, non seulement avertir les gens sur le contexte dans lequel des textes se situent, par exemple le texte coranique, je sais que c'est ce que vous faites souvent, mais être sensible au propre contexte dans lequel notre propre parole prend place. Et non seulement dire ce que nous croyons être juste et vrai, et je crois que c'est ce que voilà, nous essayons de faire et c'est normal, mais aussi nous demander comment ce que nous croyons être juste et vrai peut être reçu et à quel moment cela peut être reçu.
Alors mon cher Tristan Vigliano, ici en tout cas je ne suis que le médiateur dans son sens neutre et premier, je prendrai position dans des ouvrages, ou dans des essais ou dans des prises de parole publiques et ça nous renvoie, comme vous le dites si bien, à la responsabilité de la prise de parole publique, à son contexte, à l'environnement, à la psyché aussi de l'auditoire récipiendaire de cette parole. La parole peut construire, elle peut aussi être destructrice. Je ne veux pas faire étalage de quoi que ce soit, mais il y a une parabole coranique qui dit qu'une bonne parole, c'est comme un arbre bien planté portant très haut ses ramures au ciel, et une mauvaise parole, c'est comme si ce même arbre a été planté à l'envers, donc il est assurément enclin à la pourriture. Et il en est de même de la parole. Tristan Vigliano, nous arrivons au terme de notre émission. Quel est, puisque un essayiste a un message à faire passer, donc dans votre ouvrage « L'islam est ma culture », et nous le comprenons dans les deux sens, à la fois du verbe « être » et de la copule, et de la conjonction de coordination, avec ses leçons d'histoire littéraire pour les jours de tourmente, parues aux presses universitaires de Lyon. Qu'est-ce que vous voulez faire passer, outre cet apaisement et cette responsabilité et cette parole qui construit?
Je dirais que mon but dans cet ouvrage, c'est un but, hein, il a peut-être quelque chose d'utopique, mais après tout, on construit aussi des réalités avec certaines utopies. Mon but, ça serait d'inventer, d'imaginer un langage qui mêle une extrême franchise à la plus grande délicatesse. Savoir comment on pourrait inventer un langage qui, musulman ou non musulman, et je pense que ça vaudrait aussi pour bien d'autres religions ou simplement sensibilités philosophiques, nous permettent de nous adresser les uns aux autres. En nous disant tout, dans ce livre, vous avez la reproduction et l'agrandissement et en montrant tout, la reproduction et l'agrandissement de 3 caricatures du prophète Mahomet. Vous avez aussi reproduction du communiqué de Daesh après les attentats du 13 novembre 2015. Donc, tout dire, tout montrer, la plus grande liberté d'expression possible, mais parce qu'on a fait le choix de la plus grande délicatesse, qu'on s'est interrogé sur le moment où on disait les choses, sur la manière dont on disait les choses, et que pour cela, on s'est servi de l'histoire. On s'est extrait de l'événement, on s'est extrait de la cellule psychologique où les terroristes voudraient nous enfermer, et on s'est extrait de cette cellule pour prendre les distances par rapport à l'événement. L'histoire est bienfaisante, l'histoire est porteuse d'une éthique. Voilà. Et c'est vraiment la thèse que j'essaye de défendre à l'aide de ces auteurs du Moyen-Âge, de la Renaissance, et même de l'âge classique et des Lumières, puisque j'essaye d'étudier aussi des textes badenaux classiques, de Pascal, de Montesquieu.
Merci infiniment. En parlant de Pascal, vous avez dans votre ouvrage aussi rapporté certaines de ses citations et de ses pensées. Tristan Vigliano, vous incarnez la probité intellectuelle de l'intellectuel, sa tâche, sa mission, sa vocation, sa responsabilité de sa prise de parole. C'est l'idée aussi que nous faisons de l'universitaire et du chercheur, de l'académicien. Merci de nous avoir fait l'amitié de venir. Merci aussi de nous avoir édifiés par votre ouvrage, paru aux éditions presse universitaire de Lyon. Donc, l'islam est ma culture. Je laisserai l'auditeur de comprendre dans quel sens faut-il le prendre. Chers amis auditeurs, vous retrouverez en tout cas toutes les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attaché d'émission est Sylvia Favre. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Valérie Lavalard et la réalisation est toujours assumée avec brio par l'ami Franck Lilin.